tradition de ça. Hein. Est-ce que les vieux provençaux, ils ont toujours, un printemps, cherché les plantes sauvages,
Les petites salades sauvages, ça, c'est sûr. Et puis après... alors voilà, moi, je pense que c'est un savoir qui se transmet vraiment par la pratique. C'est-à-dire, tu peux prendre un livre et puis te dire, bon, bah, alors voilà, je vais identifier qu'il faut aller ramasser ça, 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 mais ça ne marche pas pour de vrai. Il faut vraiment être au contact de quelqu'un qui connaît, qui t'apprend, qui t'emmène sur les petits chemins. Et ça, c'est ce que vraiment la qualité de Jacqueline. Elle avait ce goût-là d'aller sur les chemins et de regarder et de... Et des fois, elle pouvait dire, attention, tu marches sur le dîner. Et c'est vraiment ça, parce qu'en fait, on n'y fait pas attention à ces plantes. Mais c'est des plantes de santé, gourmandes, c'est-à-dire qu'elles ont bon goût. Elles sont gratuites. Elles choisissent elles-mêmes leur environnement où pousser. En fait, on a juste à les cueillir en conscience. Et ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir profiter de cette abondance-là. Et Jacqueline, elle avait vraiment compris ça, qu'il y avait toute cette abondance autour de nous. Et comme elle avait été vraiment instruite par sa grand-mère, elle avait vraiment cette attention-là. Bon, on allait aussi ramasser des champignons, hein, mais les champignons, on ne fait pas des ateliers... on n'emmène pas des groupes de 10 personnes pour cueillir des champignons. Les champignons, c'est à part. C'est, on y va le plus discrètement possible. Voilà, il y a quand même... c'est quelque chose... on ne peut pas le rendre public à tout le monde. Voilà, ce n'est pas possible. Mais les plantes sauvages, oui. Et puis, on va travailler des plantes communes. C'est-à-dire que les gens qui viennent participer à nos ateliers, quand ils vont rentrer chez eux, que ça soit, on va dire, dans toute l'Europe... hein, ils vont retrouver de l'ortie, de la mauve, du plantain, du kénopode, de l'amarante, des petites salades. C'est quelque chose qu'ils sont amenés à retrouver. Et comme ils l'ont ramassé à Brandt, qu'ils l'ont préparé, qu'ils l'ont cueilli, préparé, et qu'ils peuvent associer un goût, bah, du coup, ils vont regarder la plante autrement. Et du coup, ils vont refaire des recettes qu'on leur a apprises. Généralement, on est... après un atelier, j'envoie les recettes à tout le monde de manière à ce qu'ils puissent... recommencer à préparer les plats qu'on a préparés ensemble en atelier. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une activité qui me met en joie. D'abord parce que c'est autour du vivant. Et pour moi, voilà, honorer le vivant. Évidemment, quand on fait une cueillette, on ratiboise pas une plante. On l'accueille en conscience. On en prend une partie, on prend pas tout, de manière à ce que ça puisse repousser. Par exemple, à Brandt, il y a du persil sauvage. Le persil sauvage, il est formidable. Il a un goût que tu retrouves jamais dans le persil que tu vas acheter chez un maraîcher. Il est vraiment... il a un goût très prononcé. Et alors, lui, il se balade dans le village. Donc, une année, il est à un endroit. L'année suivante, il est à un autre endroit. Donc, voilà. Il s'essaime un peu partout. Jacqueline, elle a vraiment, pour moi... transmis toutes ses connaissances avec beaucoup de tendresse, de douceur, de compréhension. Et elle était toujours dans une grande attention à l'humain et aux animaux et aux plantes. Elle avait vraiment cette attention-là. Et pour quand j'ai connu Jacqueline, donc elle m'a tout de suite emmenée sur les petits chemins et on a commencé à cuisiner ensemble pour le plaisir. Son mari était aussi maître cocktail, donc on buvait aussi des super cocktails chez Jacqueline et Daniel. Ça, c'était assez chouette. Je disais souvent, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas le moral, je vais faire un petit tour chez Daniel et après je reviens, je la pêche. Il avait l'art du cocktail. Et donc, Jacqueline, on allait ensemble sur les petits chemins. Et donc, elle m'a raconté que... donc, elle avait appris, effectivement, avec sa grand-mère. C'est elle qui lui avait transmis tout ça. Et c'est un savoir qu'avait sauté une génération. C'est-à-dire que la mère de Jacqueline, Mado, elle n'avait pas du tout le goût de ce sauvage, quoi. Ça avait vraiment sauté la génération suivante. C'est vraiment la grand-mère qui a appris à sa petite-fille. Et Mado, elle nous disait toujours, oh là là, vous faites des trucs de sorcière. Bon, elle nous cultivait quand même l'ortie au col de Fontaube pour nous, mais voilà, elle disait, oh, vos trucs de sorcière, là, oh, pop, 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 elle aimait pas trop. Mais Jacqueline, elle avait vraiment, elle s'était nourrie de ce que lui avait appris sa grand-mère, et je crois surtout qu'elle la suivait beaucoup sur les chemins. Et sa grand-mère, elle faisait que marcher à pied. Donc ça, c'était aussi une grande différence. Et Jacqueline, elle n'a jamais eu son permis de conduire. Et elle a marché toute sa vie, en fait. Pour aller du col de Fontaube à Brant, elle marchait, aller, retour. Mais comme elle faisait quand elle était petite pour aller à l'école. Hein, donc elle a vraiment toujours eu cette... c'est aussi en marchant qu'on découvre ces plantes. Sinon, on passe à côté. Hein, c'est évident. Et ensuite, à Brant, il a commencé à y avoir des touristes qui venaient. Donc j'imagine dans les années 70, hein, quelque chose comme ça. Il y a eu aussi un monsieur qui était le directeur du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et quand il a vu... apprécier les qualités de Jacqueline avec les plantes, il l'a invitée à faire une formation d'ethnobotaniste, de manière à ce qu'elle associe ce que sa grand-mère avait jamais fait, hein, puisqu'elle avait vraiment un savoir qu'elle avait pratique. Jacqueline, elle a fait une formation pour apprendre le nom latin là, des plantes, la famille des plantes, leur qualité, etc. Et elle avait vraiment cette compétence en plus de pouvoir parler des familles de plantes, de cette voilà, d'avoir été chercher un peu plus loin encore, et donc de vraiment connaître les qualités d'une plante, mais aussi sa composition chimique. Et ça, c'était vraiment pour moi précieux. On sentait que ça avait enrichi beaucoup son savoir. Et donc, surtout, je sais que ce monsieur l'avait vraiment poussé, engagé à aller à faire cette démarche, et qu'elle avait des fois pas très confiance en elle, Jacqueline, mais que du coup, elle avait gagné vraiment beaucoup de confiance. Et des fois, elle trouvait une nouvelle plante sur les chemins, et ensuite, elle fouillait dans son bouquin pour retrouver quelle famille de plantes c'était, est-ce que c'était bien ça, en vérifiant les petites feuilles, le pétale, le pistil, les pétales des fleurs. Enfin, vraiment, elle avait plaisir à aller chercher ça. Et par exemple, avec elle, c'est ça qui me vient, là, donc je le partage. C'est elle qui m'a fait goûter le panicot. Le panicot, c'est en fait le cœur du chardon. Donc quand il commence à pousser, le chardon, tu vois qu'il y a les petites feuilles qui viennent, les petites feuilles piquantes là, hein, toutes tendres, toutes vertes. En fait, tu creuses avec un couteau et tu as une espèce de cœur que tu peux manger vraiment entre les feuilles et la racine. Et ce petit cœur-là, il est tout tendre et il a le goût d'artichaut. Donc ça, c'est vrai que c'est assez, assez bluffant, quoi. Comme la consoude, qui a le goût de poisson. Alors vraiment, on l'appelle la sole du végétarien, parce que quand on cueille les feuilles de consoude et qu'on les colle l'une à l'autre, elles font un peu velcro. Donc ça fait une forme de sole. Et quand tu la mets dans une pâte à beignet et que tu la fais cuire comme ça, t'as l'impression de manger un poisson, voilà. Donc ça c'est super bon, ouais. Ça, voilà, il y a des goûts incroyables dans cette belle nature, et aussi donc toutes ces plantes qu'on va ramasser, elles ont des qualités au niveau des vitamines, des minéraux, oligoéléments, protéines, et ça c'est dommage de se passer de ces alliés de santé. Et j'espère vraiment que... de ces alliés de santé qui sont gourmandes. Donc, encore une fois, j'insiste sur le côté gourmand parce que c'est vraiment, pour nous, les aventurières du goût, c'est vraiment important qu'il y ait cette entrée-là. On ne fait pas une cuisine de survie. L'idée, c'est pas de manger que des plantes sauvages. Si on est, peut-être un jour on sera obligé, mais je le souhaite pas, mais à ce moment-là, on pourra se poser la question. Mais là, on est entouré quand même dans notre beau pays, enfin dans la vallée du Toulourain, de gens, de petits producteurs formidables qui font des produits de qualité, que ce soit les éleveurs et les maraîchers. On a quand même aussi toute une gamme de céréales et légumineuses qui sont excellentes pour la santé. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer ces plantes sauvages à ces produits locaux et de aussi d'honorer le travail de ces agriculteurs qui nous permettent de vivre. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette double entrée et c'est important d'être avec ça, d'être dans une entrée gourmande et d'honorer voilà, le travail de nos petits producteurs chéris. Et puis après, voilà, on a fait aussi... ça nous permet aussi de rencontrer et de rencontrer ces gens-là et d'être en lien avec les gens du territoire. Voilà, de pouvoir aller voir les agriculteurs locaux, de les connaître, de savoir comment ils travaillent. Et puis, voilà, après... je pense toujours à Daniel Vaux, à qui j'achète souvent des fromages de chèvre. Et évidemment, les fromages de chèvre, on les transforme. On fait des très bonnes petites tartines avec on appelle ça notre délice de chèvre. Et donc, souvent, on y rajoute de l'ortie. On va y rajouter aussi du poivron rouge, de la menthe, ou alors du chou rouge, de la ciboulette. Et donc, quand je montre à Dan ce qu'on fait, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec mes fromages ? Ils deviennent tout verts, ils deviennent tout roses, ils deviennent tout violets, ou ils deviennent tout noirs. » Alors, je rigole à chaque fois en lui disant « Bah ouais, on aime bien. » En fait, on va utiliser des produits simples, mais l'idée, c'est qu'on va passer du temps à les transformer. Et qu'on va mettre notre conscience vraiment dans le fait de faire ensemble. Dans ces ateliers, c'est aussi ça qui est vraiment important. C'est de faire ensemble dans une convivialité. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges entre les gens. Il y a un partage. Et il y a aussi le fait de s'épater à faire une belle assiette avec des couleurs, avec plein de couleurs. Parce qu'on commence toujours à manger avec les yeux. Hein. Moi, je pense que ça, c'est... Ça commence par là. Et on va évidemment aussi... j'ai parlé des plantes, mais je n'ai pas parlé des fleurs. Mais il y a plein de fleurs qui se mangent aussi. En ce moment, on peut manger la fleur d'arbre de Judée, par exemple, qui est légèrement sucrée, qui est vraiment délicieuse. Tu peux la mettre dans une mousse au chocolat ou même sur une salade. Elle est très bonne à manger, ouais. On va manger la fleur de la monnaie du pape aussi. Et puis plus tard, on va pouvoir manger les petits œillets, les tagettes, la capucine, le calendula, évidemment. J'oublie forcément, on mange aussi des fleurs de sauge. On mange de la sauge ananas, qui est délicieuse. Bref, on a vraiment une grande variété ici de plantes et de fleurs sauvages. Qui sont bonnes à manger, ou si elles n'ont pas forcément beaucoup de goût, en tout cas, elles mettent beaucoup de couleurs et de beauté. Parce que voilà, je pense qu'on se nourrit aussi de la beauté. Voilà, je pense que ça fait partie de la vie. Et que ça, c'est important. Il y a eu des chouettes moments où, effectivement, c'était pas évident d'amener, parce qu'évidemment, le truc, c'est qu'on fait une cuisine végétale. Donc ça, c'est toujours un petit peu... Il y a une croyance qui croit que si on ne mange pas de viande, eh ben, on n'est pas nourri. Voilà. Donc cette croyance-là, nous, l'idée, c'est de la faire un petit peu, la transformer. Et donc, je voyais bien que les gens du coin, ouais... Par exemple, quand je disais ben ça, il y a de l'ortie, ils me disaient oh, ça ne va pas manger ton truc, hein, c'est pas bon, hein, ça ne va pas la manger. Mais par contre, j'ai trouvé un petit truc, par exemple, donc ici, c'est une région de pois chiches, donc on fait beaucoup de houmous. Et donc, on a trouvé un truc pour leur faire manger de l'ortie, on fait un houmous ortie pastis. Et alors là, le ortie pastis, tout d'un coup, ah, là, ils sont OK pour goûter. Et du coup, ils vont goûter le hortipastis, mais du coup, ils pourront goûter après celui, le houmous avec la fleur de brocoli, ou alors le betterave gingembre. Voilà, ça va amener. En fait, voilà, il faut. L'idée, c'est jamais de forcer. C'est vraiment de proposer. Et puis, ben, voilà, trouver des petites pirouettes pour dire ok, c'est vert, mais c'est vachement bon, tu vas voir. Et s'il y a un peu de pastis, bah, ça se goûte, hein, ça c'est sûr, hein, parce que le pastis c'est bien local. Donc voilà, ça c'est les petites astuces pour faire. Et il faut pas y aller en force, voilà, jamais. Faut faire force de proposition en fait. Et puis il y en a qui sont épatés, ouais, du goût d'une salade de riz à l'ortie. Par exemple, en ce moment, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est salade de riz à l'ortie, parce que l'ortie, on prend que la sommité de la plante. Hein. C'est vraiment important de pas ratiboiser la plante. Et l'ortie, c'est vraiment de prendre la jeune pousse qu'il y a au-dessus. Et là, on peut la manger crue. Donc là, en termes de vitamines, minéraux, c'est protéines, c'est la championne, l'ortie. Elle a juste une mauvaise presse parce qu'elle pique. Mais toute catégorie confondue, c'est la championne des plantes sauvages. Quoi. Là, vraiment, il n'y a pas plus nourrissant. On pourrait même dire que ça pourrait remplacer la viande. Alors, bon, je mesure mon propos. Hein. Je veux dire, pour le côté croquant, on a envie de mordre dans la viande, c'est sûr, ça ne remplacera jamais. Mais en termes de qualité nutritive, elle est incroyable. Et donc, en ce moment, on fait une petite salade de riz à l'ortie dans laquelle on met donc les jeunes pois de Monnaie du Pape, de la jeune pousse de tilleul. On met aussi du pois gourmand. On met des petits pois crus. On va rajouter souvent des fleurs d'arbres de Judée. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? De Monnaie du Pape. Pour la partie qui est encore en fleurs. On peut rajouter un peu de plantain aussi. On peut rajouter un peu de lamier pourpre. Enfin, en ce moment, on a vraiment des jolies salades très vertes, par contre. Vert tendre, vert foncé. Enfin, voilà, il y a une déclinaison de vert très, très importante. Mais au niveau du goût, c'est formidable. Alors, il y a un truc important à dire avec les plantes sauvages, c'est qu'il faut bien mâcher. D'une manière générale, il faut bien mâcher. Parce que la digestion, en fait, commence dans la bouche avec les enzymes de la salive. Et comme ces plantes sauvages, elles sont très nutritives et que notre estomac n'est pas forcément habitué à les manger, enfin à les synthétiser, à les digérer, donc c'est important de bien mâcher. Voilà. Donc ça fait partie aussi de nos petits enseignements dans nos ateliers. Une fois qu'on a préparé une belle assiette, eh ben, on va prendre le temps vraiment de déguster, de savourer tout ce qu'on a préparé. Voilà, c'est quelque chose qui on a aujourd'hui donc Jacqueline est décédée cet été, l'été dernier au mois d'août, elle nous a quittés, mais pour moi c'est important de continuer à transmettre tout ce qu'elle m'a appris. Là, je sens vraiment que je suis à ma place. Que ça fait partie de ma mission de vie, de transmettre tout ce qu'elle m'a appris. Et voilà, j'espère honorer vraiment tous les apprentissages qu'elle m'a transmis. Et aujourd'hui, donc, les aventurières du goût, ça continue. Avec donc une partenaire qui s'appelle Laurie. Et Laurie, elle a aussi ce goût des plantes sauvages. Et elle a une formation de chimiste à la base. Donc, ça amène aussi plein de qualités. C'est-à-dire qu'elle peut nous dire pourquoi on digère bien le vinaigre de cidre, mais pourquoi on ne digère pas le vinaigre de vin. Elle a des entrées, on va dire, scientifiques, même si elle garde cette fraîcheur par rapport aux plantes. Mais donc, voilà, c'est tout ce qui est pourquoi ça fermente, quelles sont les levures qu'il y a sur les fleurs de sureau, qui permettent donc de faire aussi des limonades avec des fermentations naturelles. On peut faire de la limonade de fleurs de sureau. Cette année, on a fait de la limonade de glycine, on a fait de la limonade de lilas. de fleurs, hein, de fleurs de glycine, de fleurs de lilas. On fait de la limonade de fleurs de tilleul, on fait de la limonade d'ortie, on fait de la limonade de menthe, enfin voilà. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des levures sur ces plantes-là que du coup, ça permet la fermentation. Donc voilà, donc on enrichit à chaque fois. C'est un peu sans fin, en fait. Hein, on peut vraiment aller... On peut continuer. La nature est toujours porteuse d'enseignements. Voilà. Et ça, c'est chouette. Et de pouvoir partager, voilà, tous ces enseignements... et de le faire dans un cadre merveilleux, parce que ça, j'ai oublié de dire aussi, mais Jacqueline, comme elle était née à Brantes, elle avait aussi ses visites, ses balades, c'était autour des plantes, mais aussi du patrimoine. Elle pouvait raconter toutes les pierres de Brantes, et elle a vu Brantes se transformer avec le village abandonné qui reprend vie dans les années 70, qui se transforme et jusqu'à de nos jours. Et elle avait vraiment cette possibilité de raconter des histoires sur la vie du village. Et ça, c'était précieux aussi. Je regrette de ne pas l'avoir enregistré et de ne pas avoir gardé... Bon, dans mon cœur, il y a toujours le son de sa voix, hein, mais c'est vrai que il y a quelques petits films qu'on peut trouver sur notre site internet, des petits reportages, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'entends la voix de Jacqueline et que je la vois avec ses petites mains.